Alors, je suis le père Pierre-Marie Castaignol, j'ai 65 ans, je suis membre de la congrégation des serviteurs de Jésus et de Marie à l'abbaye d'Ourscamp. Et puis j'ai proposé ce thème-là parce que, bon, en même temps je fais de l'autopromo, mais je ne sais pas si ça vous concerne, mais j'ai publié le mois dernier un livre sur couple et vie professionnelle. Donc j'ai réfléchi à cette question-là de la vie professionnelle et par rapport à la vie personnelle. Alors là, dans la partie couple, parce que c'est beaucoup de mon ministère. Mais bon, du coup, c'était essayer de méditer avec vous sur cet équilibre pro-perso qui, je sais, est une question pour certains. C'est de dire comment trouver le bon équilibre, comment être juste, etc. Peut-être une première introduction, de dire qu'au fond, c'est important de décloisonner les choses. C'est important de décloisonner les choses, c'est-à-dire de voir les choses dans une unité. Et parfois, c'est ce qui manque, en tout cas, de voir comment la partie professionnelle a aussi des impacts dans votre vie personnelle et inversement. Et donc, comment faire pour trouver une certaine unité intérieure, un équilibre. Et je trouve que un point qui est important, c'est dont je me sers pour aider justement à cet équilibre, c'est la spiritualité de communion. Ça veut dire quoi, spiritualité de communion? Ça veut dire que c'est un texte que le pape Jean-Paul II a publié au début du millénaire. C'était sa lettre pour le début du millénaire. Et il parle de la spiritualité de communion. Et je me dis, tiens, comme critère d'équilibre, est-ce que le fait, à quoi je vois que j'ai un bon équilibre, sinon la qualité des relations que je peux avoir? La qualité des relations que je peux avoir avec mon entourage, est-ce que ces qualités des relations, eh bien, elles doivent être, il en parle, le pape Jean-Paul II en parle dans son texte, il dit faire de l'église la maison et l'école de la communion. On dirait faire de nos vies aussi la maison et l'école. C'est quelque chose qui s'apprend. Et de dire, de mettre la communion, la qualité de relation, comme la relation avec soi-même, la relation avec Dieu, la relation avec les autres, comme un marqueur d'équilibre, je trouve ça intéressant de dire, tiens, au fond, est-ce que ça va, c'est pas ça qui va nous donner, est-ce qu'on, si on fait trop ou pas assez, qui va nous aider à peut-être border un peu la quantité de travail que nous pouvons donner. Et puis la maison, donc ça c'est l'école, donc ça s'apprend. Et la maison, c'est aussi c'est quelque chose qui protège. Vous avez à protéger aussi vos vies, vos vies de peut-être d'excès, vos vies de au niveau professionnel. On voit bien qu'il y a parfois des, surtout pour des jeunes Parisiens, etc., où on sent que vous êtes quand même très sollicité. Voilà. En quoi vous avez besoin d'être, votre vie a besoin d'être protégée par rapport à votre vie professionnelle et en quoi ça peut vous aider. Et le Saint-Père Jean-Paul II continue en disant, c'est aussi un combat spirituel. C'est un combat spirituel. Le fait de cet équilibre, c'est pas spontané. C'est pas spontané, parce que précisément, on peut être déséquilibré en donnant trop à une chose et trop à l'autre. Et je me dis, tiens, comment est-ce que je perçois justement ce combat intérieur? C'est un combat intérieur, ça veut dire que comment je perçois la place que je donne au repos dans ma vie? Est-ce que c'est quelque chose qui habite ma vie? Est-ce que c'est quelque chose auquel je tiens? La dimension contemplative de nos existences aussi. La contemplation, la dimension contemplative de nos existences, la dimension voilà où je peux souffler, où je prends une pause pour ceci, pour cela, pour certains vont parfois faire des retraites en abbaye, etc. Je trouve c'est intéressant de dire comment ça va m'aider à équilibrer la charge de travail par rapport à ma vie professionnelle, à ma personnelle, et ne pas être uniquement comme disait l'introduction, se marier avec son travail, et d'être vraiment uniquement. Je trouve d'autant plus que parfois ça a une place excessive. Ça a une place excessive dans le sens où, oui, tout de suite, ben vous allez ensuite vous présenter l'un des autres. Vous allez faire quoi? Alors qu'est-ce que tu fais? Ben ça, c'est assez classique. C'est assez classique. C'est une manière d'entrer en matière, ça, ce que je peux entendre, etc. Mais je trouve dommage qu'on. On ne dit pas de quelle région tu es ou de quel qu'est-ce que tu fais comme sport ou comme centre d'intérêt ou voilà. Tout de suite, on est focus sur le travail, comme si ça donnait une définition à mon avis parfois trop importante. Vous voyez, trop importante dans nos existences. Et c'était ça qui nous déterminait, qui nous définissait, alors que c'est un des éléments, mais ce n'est pas l'élément pertinent pour nous définir. Hein, et surtout rentrer en relation, bah, du coup, il y a plein d'autres choses qu'on peut... Ce qui fait aussi, c'est intéressant, de comment, alors je ne sais pas si vous avez vécu, mais je pense que oui, un certain nombre en tout cas, comment vous vivez les temps de chômage? Comment les temps où vous n'avez pas d'emploi? Et que, ben voilà, vous êtes dans l'entre-deux, dans une recherche. Comment vous vivez ça par rapport au besoin de reconnaissance? Vous voyez, le besoin de reconnaissance, de dire que ce besoin de reconnaissance fait que, ben justement, c'est ben, de dire, ben, tu fais quoi? Ben, moi, je suis au chômage. Ça freine un peu la conversation, vous voyez ce que je veux dire, ça calme un peu le truc, alors que bon, c'est une étape aussi de, qu'est-ce que vous renvoyez de vous en parlant que vous êtes au chômage? Si vous l'avez été à des périodes de votre vie, est-ce que vous l'avez dit? Est-ce que vous en avez honte? Est-ce que vous l'avez caché? Est-ce que vous avez menti? Parce que vous ne préférez pas que ça se fasse. Comment ça se vit, ça? Comment est-ce que cette question de l'absence de travail, on parle de trop de travail, mais de l'absence de travail, comment est-ce que vous avez vécu, si vous en avez vécu, des périodes comme ça? Et on sait très bien que dans beaucoup de vies actives, il y a des changements. Soit c'est un temps qu'on a choisi et pour refaire ses forces, voilà, et volontairement on l'a fait, soit c'est un temps qui s'est imposé à vous. Mais la manière dont vous présentez ce temps de non-emploi, de chômage, je trouve que ça dit aussi quelque chose de vous et ça me permet aussi d'avoir une attitude assez intéressante, de dire comment, où est-ce que j'en suis du besoin de reconnaissance. On sait très bien que dans beaucoup de jobs, etc., les difficultés du lien avec le management, c'est souvent des manques de reconnaissance. C'est des manques de reconnaissance qui fait que des personnes ou se découragent, voire partent en burn-out, etc. Mais est-ce que c'est justement le trop et le pas assez, soyez attentifs là-dessus. Est-ce que j'ai trop besoin de ça? Est-ce que c'est dans un trop qui fait que c'est vraiment ça qui me définit, hein, et qui me pose? Donc, la question de la spiritualité et de communion. Et soyez attentifs aussi, quels sont les marqueurs, justement, qui font que les warnings qui s'allument que vous travaillez trop, que le travail a trop d'importance. En quoi ça diminue la qualité de vos relations? En quoi, peut-être certains vous alertent. Et je crois que c'est important d'écouter les alertes qui sont lancées autour de vous, des marqueurs qui sont... Alors quand on est en couple, le couple est une aide, est un miroir, mais il n'y a pas que le couple, il y a les amis. Les amis sont aussi des miroirs, il y a la famille qui dit, bah, écoute, là, est-ce que moi-même, je serais à l'aise pour dire quelque chose à un ami? Disons, là, je trouve que vraiment, on te voit tellement épuisé, tellement fatigué, tellement tiré. Est-ce que j'aurais une simplicité pour tirer la sonnette d'alarme, par exemple? Parce que, précisément, je prends soin de l'autre. Et que la qualité du lien avec l'autre est pour moi importante. Donc, soyez attentifs. Quelles sont les personnes dans votre entourage, si vous en faites trop, qui auraient le courage de dire, attention, tu en fais trop? Intérieurement, nommez-les intérieurement. Quelles sont les personnes qui éventuellement, famille, amis, collègues, hein, peut-être, je ne sais pas, ou hiérarchie éventuellement, on n'est jamais à l'abri d'une bonne nouvelle, mais même si c'est peu probable, mais qui autour de vous prendra soin de vous en disant attention? Et on sait très bien, c'est que ces questions-là de trop ou pas assez, ça demande aussi quelque part de revisiter sa propre culpabilité. C'est particulièrement vrai pour les jobs vocations. Les jobs vocations, comme bon, typiquement tout ce qui est autour du médical, tout ce qui est autour de l'enseignement, tout ce qui est autour des forces de l'ordre, voilà, des forces de sécurité, pompiers, etc. Les personnes dont le travail est une relation d'aide. Dont le travail est une relation. Et c'est là, les prêtres en font absolument partie. Et les burn-out les plus fréquents sont là, précisément parce que il y a un trop, et parce que revisiter la limite, c'est revisiter aussi sa culpabilité. Parce que forcément, vous quittez votre travail, vous êtes dans l'enseignement, il y a toujours quelque chose à enseigner, vous êtes dans l'hôpital, il y a toujours quelqu'un à soigner, et vous êtes prêtre, j'en parle même pas, il y a toujours quelqu'un à instruire, à confesser, à conseiller, etc. Voilà. Il y a toujours quelqu'un, il y a jamais de fin, tu ne peux pas dire rideau, fini, parce que ça touche la personne humaine. Et en même temps, c'est ça qui vous attire. C'est ça qui vous attire. Et on voit bien que votre génération, par rapport à la mienne, par exemple, est très différente. Vous êtes très attentif à la qualité du travail, au sens du travail, que votre travail est un sens. Et souvent, vous vivez douloureusement une absence de sens. Voilà. Et je trouve que c'est... Mais vous-même, posez-vous la question, est-ce que, si vous êtes concerné par ces relations d'aide, un job vocation... Où est-ce que vous allez mettre les butoirs, au fond? Où est-ce que vous allez mettre les limites? Parce que derrière ça, par rapport au travail, c'est accepter de dire non aussi. Et comme c'est une relation d'aide, dire non, c'est aussi dire je. Et donc c'est compliqué. Encore une fois, c'est revisiter sa culpabilité. Et donc... Mais même sans être dans une relation d'aide, vous voyez qu'il y a du travail pour vos collègues, etc., que vous avez envie d'aider, vous êtes généreux, vous avez un cœur rempli de désir d'aider, de soutenir. Mais bon, à un moment donné aussi, vous avez votre propre vie. Donc, est-ce que vous avez déjà dit non au niveau professionnel à une sollicitation? Dire non, c'est dire je. Oui, dire non, c'est dire je. Est-ce que vous avez déjà dit non? Là, ça c'est non. Je pourrais pas, sans vous justifier, etc. C'est parce que évidemment, la personne qui sont en hiérarchie vont toujours voir ceux qui disent oui. Bah, c'est évident, ça c'est logique. En communauté, c'est exactement pareil. Hein, le prieur, par exemple, il va demander un service à un frère dont il sait qu'il va dire oui. Alors du coup, est-ce que ce frère-là mettra la limite, par exemple? Donc ça peut être intéressant de travailler à ça. Mais du coup, je dis, attends, les warnings, parce qu'on en fait trop, mais à un autre point auquel on ne pense pas forcément, est-ce que parfois je n'en fais pas assez? Je pense par exemple à la question du télétravail. La question du télétravail, ou tout simplement... Je dis pas toute la vérité, j'en profite pour partir. Souvent c'est le vendredi parce qu'on voit c'est le week-end, vous êtes très attaché à vos week-ends, etc. C'est très bien. Mais il y a une question de justice. Vous êtes payé pour travailler. Et donc le fait d'être payé pour travailler veut dire que en face de ce salaire, il y a un travail, une quantité de travail qui est demandée. Et est-ce que parfois vous vous êtes posé la question, en fait j'en fais peut-être pas assez? Où on vous a dit, alors que c'est toujours difficile de voir la limite, hein, où est-ce qu'il faut mettre le bon équilibre, mais en tout cas d'être attentif là-dessus, parce qu'on peut être, d'une certaine manière, manquer de justice. Alors, en termes de temps, mais aussi à d'autres niveaux, est-ce que je suis juste par rapport, est-ce que je suis honnête? Est-ce que dans mon travail, il y a des possibilités de prendre des choses, de voler en mots clairs, et du coup de prendre des choses et de les emporter chez moi. J'ai contact, je ne sais pas, dans vos métiers, avec des espèces, par exemple, de l'argent en espèces, de l'argent liquide, etc. J'ai contact, est-ce que je suis au clair au niveau de l'honnêteté, au niveau de l'honnêteté? Est-ce que je m'arrive de mentir à cause du travail, et donc de ne pas dire la vérité? Donc, c'est intéressant d'être attentif à ça, de pas en faire assez, de pas en faire assez, ou de faire mal, hein, ou de faire mal, et je crois que c'est quelque chose qui est important. Donc trop assez, mais en même temps je vous engagerai, hein, j'avais fait comme ça un topo il y a déjà plusieurs années à SPNSP, c'est plaidoyer pour la belle ambition. Je trouve que les cathos se font des nœuds au cerveau concernant l'ambition. Et c'est trop dommage. Parce que vous laissez la place à des personnes qui ont moins reçu que vous, qui sont peut-être moins formées que vous, ou voire moins honnêtes que vous, et vous laissez la place. Et moi, je suis plaidoyer pour la belle ambition. Je veux dire, ayez de l'ambition. Alors, ayez de l'ambition. les qualités, et encore une fois, le fait des disciples de Jésus fait qu'on est plus formé que d'autres. Vous êtes plus formé que la plupart de vos contemporains, parce que le fait d'être ici, c'est la première fois, c'est pas la première fois, vous avez fait des retraites, vous avez fait des pèlerinages, vous avez des lectures, vous écoutez des conférences en podcast, vous stimulez votre intelligence, voilà, vous avez beaucoup de capacités de grandeur d'âme aussi. N'hésitez pas à désirer grandir aussi professionnellement. Et il y aurait une sorte de pusillanimité, ce qu'on appelle le pusillanime, c'est celui surtout, ah ben non, moi je reste dans mon petit coin, surtout, personne me... Parce que c'est vrai, si on vous sollicite pour une promotion, imaginons, professionnelle, forcément, vous allez être sur le devant de la scène, évidemment, ça ne peut pas être autrement. Et donc, ça veut dire que vous êtes poussé à ce qu'on appelle à la magnanimité, à la grandeur d'âme, qui s'oppose à la pusillanimité. Pusillanimité, je reste dans mon petit coin. Magnanimité, au contraire, j'ai le désir de donner le meilleur à cette société, à la société qui m'emploie, ou la société ou établissement, si vous êtes dans la fonction publique, peu importe le lieu où vous êtes. Alors parfois, c'est la fonction publique, il y a des concours, ça c'est un petit peu différent, mais même, je dis, soyons attentifs à ça, de ne pas chercher le minimum, de ne pas être moins-disant. Vous voyez, de ne pas être moins-disant en disant, voilà, je suis là, j'ai trouvé la planque, pépère, bien, niveau sous, ça va, c'est correct, voilà, je vois les autres, dès que quelqu'un demande un service, je regarde par terre, parce que, évidemment, je sais pas, ça ne me concerne pas, bon, etc. Il y a un bien qui pourrait se faire que vous ne faites pas. Vous voyez, c'est intéressant de savoir ça. Et vous savez que le péché par omission, quand je confesse à Dieu, le péché par action, en parole, par action et par omission, le péché par omission, c'est le bien qu'on aurait pu faire et que je n'ai pas fait. Parce que, tout simplement, voilà, parce que ça demandait de sortir de sa zone de confort, parce que ça demandait d'être dans une étude de grandeur d'âme, de s'exposer, de prendre des risques. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit bien ce qui ça rend pas du tout service aux personnes, parce que tout est fait pour pas prendre de risques. Le principe de précaution, risque zéro, tout, surtout pas de risque, etc. Et je me dis, tiens, il y a quelque chose qui est... Ça va s'exposer. Ça va... Parce qu'il y a un bien, ce qui va être le moteur, c'est le bien à faire. C'est pas être en haut de l'affiche, c'est pas que l'on dise du bien de moi, une sorte de gloriole personnelle. Non, non. Il y a un vrai bien à faire. Il y a un bien à faire, et parce qu'il y a un bien à faire, je me sens aussi concerné. Objectivement, il n'y a rien qui soit... Je suis peut-être mieux armé que d'autres. Alors, je peux demander une formation, évidemment, aussi professionnellement. Mais aussi, on sait dire, plus on avance dans la hiérarchie, moins ce sont des questions techniques, plus ce sont des questions humaines qui sont en lice, c'est-à-dire qui sont en jeu. C'est des questions humaines. Donc, je trouve ça intéressant de plaidoyer pour la bonne ambition, d'être attentif là-dessus, de ne pas être celui ou celle qui recherche toujours le moins-disant, le côté plus confortable, le côté, voilà. Souvent, je pose la question, mais entre un travail très intéressant, mais peu payé, un travail payé, bien payé et pas intéressant, vous mettez le curseur où ? Et pareil, je veux dire, un travail où vous pouvez éventuellement progresser, où vous pouvez avancer, et un travail, finalement, vous êtes là, dans votre petite niche, etc. Ce serait un petit peu dommage, je trouve. Ce serait un peu dommage parce que ça, il y a quelque chose qui serait pas au rendez-vous. Là où peut-être un autre point, là où des choses parfois se compliquent, c'est la question de la porosité entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Dans le bouquin, j'en parle. Parce que je trouve ça, vous savez, parfois ça se complique, parce que, d'autant plus avec la réalité du numérique. Ce qui n'était pas du tout ma réalité quand j'ai commencé, j'ai eu une vie professionnelle avant d'entrer dans la vie religieuse. Et donc, c'était pas du tout... Mais donc, du coup, cette porosité qui peut faire que je veux une sorte de ce qu'on appelle de vouloir, là aussi, Où est-ce que je mets la limite? Alors maintenant, il y a le droit à la déconnexion, etc. Je ne sais pas si dans vos entreprises respectives, ça, vos jobs, ça peut arriver. Mais parfois, on n'ose pas ne pas... Ben, il y a mon supérieur qui appelle à 21h, ou je suis en vacances, et du coup, il m'envoie des mails. Est-ce que je veux... Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que j'accepte de dire, ben, déconnexion, c'est déconnexion. Donc, c'est une question de la porosité. Et est-ce que j'accepte, ou est-ce que je, pour faire bien, un peu de ce qu'on appelle aussi la même chose, le présentialisme. Vous voyez, le présentialisme, je reste jusque tard pour montrer, en tout cas vous êtes là, vous n'êtes pas resté jusqu'à plus de 20h, semble-t-il. Donc, mais voilà, pour montrer que je suis quelqu'un de bien, que, etc., etc. Donc, je me dis, voilà, par rapport à ça, cette porosité, où est-ce que vous mettez la limite? Est-ce que vous avez une parole là-dessus? Et est-ce que vous êtes concerné? Parce que tout le monde n'est pas concerné, mais si vous êtes concerné, et sans culpabilité, c'est surtout ça la question, sans culpabilité, est-ce que j'accepte de dire, ben écoutez, là je peux, et même sans rien dire, je suis absent, voire vous mettez réponse, il y a des réponses automatiques maintenant au niveau des mails, ces réponses automatiques, bon, heureusement, parfois j'écris à des personnes et je reçois une réponse automatique, je ne serai pas là dans telle date, etc., consulter telle personne. Voilà, du coup, c'est ça. Et ça, je trouve que c'est bien de faire ça. Et ne pas aller checker ses mails entre deux pour dire, voilà, je vais répondre, je vais prendre de l'avance. Voilà, que je trouve que ça pose la question, comme je vous ai dit, du repos. Hein, quelle est la place du repos dans votre vie? La place où vous laissez et à votre corps et à votre esprit. Et aux relations que vous pouvez avoir autour de vous, une autre manière d'être en contact. Vous voyez, je trouve que c'est la question du repos. Et alors, il y a des personnalités qui sont parfois des hyperactifs. Il y a des hyperactifs, c'est tout le temps. Et je trouve qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait juste, parce que cette hyperactivité, hein, c'est fait que on passe à côté de quelque chose. Hein, on passe à côté de quelque chose qui fait que on passe à côté de relations peut-être plus gratuites. Quelle est la place des relations, ouais, typiquement les relations amicales, qui ne sont pas des relations professionnelles, évidemment, sauf qu'à cas particulier, mais voilà, où est-ce que j'en suis de la partie gratuite, d'une certaine gratuité, sans attendre de retour, alors que, précisément, dans la vie professionnelle, on a une attente, forcément. Parce que vous pouvez être un travail, en face de ce travail, on attend un certain nombre de résultats, et c'est tout à fait légitime. Donc, cette question de la gratuité, et cette question aussi, moi, j'en parle aussi à un moment donné, d'être attentif là-dessus, de ne pas transposer justement aux relations personnelles le mode de relation professionnelle. Je pense par exemple dans cette recherche d'immédiateté. L'immédiateté qui fait qu'on veut tout de suite avoir une réponse. Tout de suite, on est dans l'immédiateté. Mais on voit bien dans le monde, c'est comme ça. T'envoies un mail, t'as pas dans la journée de réponse, t'as un texto, et un appel, voilà. Et ça, bon, déjà, je trouve ça pas très normal, parce qu'on a besoin parfois de répondre, de réfléchir avant de répondre, ce qui est plutôt bon signe. Mais est-ce que ça, justement, est-ce que cette porosité-là, elle va jusqu'à appliquer ce mode de fonctionner à vos amis, à vos familles, à vos proches? Est-ce qu'il y a une forme d'exigence dans la réponse? En tout cas, c'est un point à éclaircir et sur lequel vous pourriez éventuellement réfléchir de façon à dire, voilà, il y a la vie pro où il y a une exigence et c'est normal, mais la vie perso, je ne suis pas dans cette exigence. Je suis dans une forme de gratuité. Je suis dans une forme de... Mais, je trouve ça assez important d'être attentif là-dessus, parce que sinon, il peut y avoir des dérapages, etc. La question de l'argent, ce serait un thème en soi, parce que forcément, la vie professionnelle, c'est lié à l'argent, ce qui est tout à fait normal. Et là aussi, ne vous bradez pas. Là aussi, les cathos font beaucoup de nœuds au cerveau avec l'argent. Beaucoup, voilà, on est mal à l'aise, etc. On n'ose pas demander. Voilà, vous avez... être valorisé, vous valorisez votre travail. Et c'est de ce rapport à l'argent que ce que l'ouvrier mérite son salaire, c'est ce que dit Jésus. Voilà, donc c'est le fait de dire et de ne pas avoir peur aussi de demander, parce que vous voyez qu'il y a quelque chose qui est juste aussi. Et il ne serait pas juste quelque part de vous sous-payer par rapport à la prestation que vous réalisez, à votre emploi du temps, etc. Donc ça, c'est une question de l'argent. Et ce qui est intéressant avec l'argent, C'est pas c'est la quantité elle-même, mais c'est ce que dit l'argent. C'est ce que dit l'argent. Est-ce que entre vos collègues, qui imaginons que vous avez des collègues avec les mêmes postes, déjà, est-ce que vous savez combien, ben ça c'est aussi très tabou en France, contrairement aux États-Unis, aux pays anglo-saxons, on n'a aucune difficulté à dire combien on gagne, etc., etc. Mais est-ce que vous avez, imaginons vous savez que, alors si c'est l'administration pour le coup, il y a des barèmes, ça c'est clair, net et précis, mais dans les entreprises privées, ce n'est pas le cas. Et il peut y avoir pour un même travail des compensations financières, des salaires qui sont différents. Je pense que là aussi, c'est dire, c'est important de donner de la valeur et n'hésitez pas à demander des augmentations. Alors, on ne répète toujours pas, mais vous voyez, par exemple, moi, je me suis formé comme thérapeute de couple, etc. Alors, je pratique pas, je suis d'abord prêtre, c'est intéressant, quand je voyais de suivre cette formation, il disait, c'est très important de vous faire payer. Quand, si vous êtes thérapeute de couple, voilà, laïque, hein, qui est l'immense majorité, évidemment, mais de vous faire payer. Parce que le fait de payer la séance donne de la valeur à votre formation, donne de la valeur aussi à votre prestation. C'est un travail, c'est un métier, aider les couples, etc. Et c'est vrai pour toute forme de thérapie, de tout ce qui est thérapeute, etc. C'est de la même manière. Donc, je trouve que c'est intéressant de la question de l'argent. Qu'est-ce que ça dit dans les relations, l'argent ? Je trouve que c'est sur ce point de vue-là. Un autre point qui est intéressant, c'est la vie spirituelle et le travail. Vie spirituelle et travail. Plusieurs choses peut-être à vous dire là-dessus. Ce qui pourrait être de réfléchir, si par exemple vous devez déménager, vous devez changer d'emploi. Comme critère de discernement, la vie spirituelle est importante. C'est-à-dire que vous soyez dans un lieu, dans une paroisse éventuellement, dans une ville, où vous sentez il y a une vie spirituelle qui soit intense. Alors, Paris, évidemment, vous êtes plus que bien doté, mais ce n'est pas le cas de toutes les villes, loin de là. Si vous devez vous isoler en campagne pour X raisons, parce que vous êtes dans l'agriculture, l'agroalimentaire, ou alors voilà, une école qui est là, vous êtes l'enseignement, etc., quelque chose de beaucoup plus dans la ruralité. Moi, je trouve que c'est important de se poser la question, tiens, qu'est-ce qui va être mon soutien spirituel ? Qu'est-ce qui va me permettre de m'accrocher au Seigneur et de me permettre d'être attentif à ça et de trouver des ressources, des personnes ressources autour de vous qui vous aident, vous voyez, sur ce qui vont être les soutiens. Je me souviens comme ça le cas d'une famille qui quittait une ville de l'ouest de la France où elle était très soutenue et elle s'installe à Annecy. Et on connaît mal Annecy, mais en tout cas, assez rapidement, ils ont décidé de ne pas rester, parce qu'autant ils étaient soutenus spirituellement et pour les écoles des enfants, parce que ça, c'est une famille, donc c'est une autre réalité, mais l'école des enfants, l'école des... etc., ils ne retrouvaient pas ce qu'ils avaient laissé dans l'ouest de la France. Donc, je me suis dit, tiens, c'est quelque chose... C'est bon, il faut décompartimenter, il faut ouvrir, tout est lié, donc la partie spirituelle est évidemment liée à la partie aussi professionnelle. Hein, alors maintenant, c'est aussi, y a un autre point où c'est lié, et si votre travail s'oppose à votre foi ? Parce que ça, c'est aussi une question. Si on vous demande, alors ça peut être de mentir. Au client, par exemple. Si on vous demande de corrompre, ou vous-même, vous êtes corrompu, disons, vous laissez corrompre. Je me souviens comme ça d'un cas, j'ai été vécu en Argentine pendant 10 ans, dans les années 90, je connaissais le patron de Total, qui est un Français. Et évidemment, dans un pays comme l'Argentine, qui est un pays quand même assez corrompu, vous êtes patron de Total, il y a énormément d'enjeux. Et ils avaient, c'est intéressant, c'est que comme culture d'entreprise, alors est-ce que c'est mis en place, c'est ce qu'ils me disaient en tout cas, ils avaient décidé d'accepter aucun bakchiche, aucun dessous de table. Parce que évidemment, si vous allez, où est-ce que vous allez forer ? Vous allez forer ici, vous allez forer en offshore, en Afrique, du coup ça va faire du travail, ça va faire une richesse pour le pays, et ben, tenez, prenez ça, c'est pour vous. Alors on vous paye Alors, vous n'êtes pas à ce niveau de responsabilité, je n'en sais rien, mais je ne pense pas, mais on vous paye, je ne sais pas quoi, un voyage pour vous, votre famille, ça s'est offert. Soyez très attentifs. Je me souviens comme ça de quelqu'un qui travaillait dans le nucléaire. Même une bouteille de vin, il n'acceptait strictement rien. C'est extrêmement clair, d'être absolument rien. On n'accepte rien. Parce que c'est pour garder la liberté. Donc, alors ça, c'est une question de corruption. Ou alors, c'est aussi, c'est plutôt les professions médicales qui sont concernées. Mais voilà, avec les lois que vous savez pour la fin de vie, la question de la défense de la vie au début. Alors, je ne sais pas, peut-être certaines d'entre vous sont sages-femmes, mais est-ce qu'on oblige à dans la formation ou ensuite? Ensuite, bon, il y a quand même la clause de conscience. Bon. Mais est-ce que dans la formation, on oblige à pratiquer des avortements? Est-ce qu'on oblige et est-ce que vous pouvez vous y opposer et avoir quand même votre diplôme? Il y a parfois où la foi et le travail font pas bon ménage. C'est pas toujours, mais en tout cas d'être où vous êtes aussi, c'est un peu différent, c'est parfois. Mais l'emploi, par exemple, vous travaillez dans l'événementiel, évidemment, c'est le week-end. Ça, c'est sûr. Ça ne peut pas être autrement. Ça ne peut pas être autrement, parce que c'est là où on va vous solliciter pour des mariages, pour des soucis. C'est votre... Alors, du coup, je trouve c'est intéressant d'avoir la vie spirituelle comme un curseur, quelque chose qui va pouvoir vous aider à être ajusté et à pouvoir vivre cette unité intérieure. Parce que s'il n'y a pas assez de place pour votre vie intérieure, s'il n'y a pas assez de place pour votre vie de prière, parce que le travail ou s'oppose ou prend trop de choses ou grignote sur la messe dominicale, ou etc. Donc je trouve ça intéressant, ça fait partie des critères de remise en cause, de réorientation professionnelle. De dire, ben là, c'est de même qu'un critère de déménagement, ça pourrait être d'avoir une paroisse qui soit une ressource là où vous allez être dans votre futur emploi, etc. Mais je pense que c'est quelque chose qui est important d'être attentif justement à cette dimension spirituelle. Alors, sachant que cette question-là, surtout en France, avec la laïcité, c'est quand même très cloisonné au niveau de la foi et du travail. Mais je trouve ça de dire quel est. Comment ça se passe concrètement dans votre job? Je ne sais pas. Quelle latitude vous avez de témoigner, par exemple? Quelle latitude vous avez de témoigner? Ou est-ce que c'est simplement le fait d'agir comme vous agissez qui fait que les autres se posent des questions? Oui, je pense que c'est plutôt dans ce sens-là, de dire, tiens, j'agis comme j'agis, et du coup, ça va faire que des questions vont se poser, et que des personnes vont dire, mais tiens, pourquoi tu fais ça? Et peut-être entre collègues, voilà, de discuter, de dire, tiens, ou souvent, souvent, ça peut arriver que vous fassiez ou un pèlerinage, ou une retraite, ou une session de formation, etc., ou quelque chose qui a à voir, le week-end qui a à voir avec votre foi, et souvent, on pose la question le lundi matin, classique. Qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Forcément, donc on vous pose la question. Alors vous pouvez dire, si vous venez faire une retraite chez nous, là nous sommes en Picardie, vous pouvez dire je suis allé en Picardie. Ça, c'est, oui, c'est possible. Je suis allé visiter un monument historique. C'est aussi une réalité, c'est pas mentir. Ou je suis allé faire une retraite. Qu'est-ce que vous allez dire là-dessus? Où est-ce qu'il va y avoir... Qui est aussi s'exposer, parce que, bon... je pense qu'il y a une forme de témoignage, déjà. On témoigne en étant des bons professionnels. Premièrement, des professionnels excellents. C'est comme ça qu'on témoigne. Je crois que ça, c'est... Vous êtes des bons professionnels. Et ensuite, au-delà de ces bons professionnels, vous pouvez aussi avoir un certain nombre de demandes qui viennent de... Je me souviens, ce témoignage est assez étonnant, peut-être vous connaissez cette rappeuse Diams qui s'est convertie à l'islam, et c'est intéressant de voir son parcours. Elle avait les victoires de la musique, elle était lauréate, etc. Bon. Et elle était tellement submergée d'émotions et elle allait tellement mal qu'à un moment donné, elle a vu. Alors, c'est vrai que d'autres religions sont moins embarrassées que nous pour faire des choses. Elle voit une jeune femme en train de faire sa prière, comme ça, pendant un festival, elle se met à côté, elle s'en dérange. Elle me dit, tu fais quoi ? Elle me dit, je prie. Le diable se dit, est-ce que, quelle tradition orthodoxe, mais elle n'avait aucun lien avec sa communauté. Elle donne ce témoignage, c'est intéressant, et le fait de suivre l'autre jeune femme, ben, tu fais comme ça, tu le mets et tu te prosternes. Ça. Et le fait de se prosterner fait qu'elle a eu quelque chose qui a complètement bouleversé intérieurement et qu'elle a choisi cette religion-là, puis même elle est partie en Arabie Saoudite, etc. Donc elle a été dans un islam assez exigeant, etc. Mais c'est intéressant de dire, tiens, et si elle avait rencontré quelqu'un d'autre, qui aussi lui aurait montré le chemin de la prière. Encore une fois, c'est à monnayer avec prudence, mais je trouve intéressant de voir que d'autres traditions religieuses sont parfois moins embarrassées que nous. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Pas forcément. Par exemple, le temps du carême cette année, ça a été impressionnant. Impressionnant la quantité de jeûnes à la messe décembre. Impressionnant le nombre de possibilités, de propositions qui ont été vécues pendant ce temps de carême. Et je me dis, tiens, d'autres aussi ont des temps de jeûne, etc. Le fait de se sentir, mais tiens, moi je fais quoi ? Je fais quoi dans ma religion ? Comment je fais ? Donc je trouve c'est en tout cas assez intéressant d'être attentif sur ce point-là, de dire, oui, il y a des choses parfois qui s'opposent à la foi. Il y a des choses sur lesquelles j'ai peut-être quitte à changer de travail parce que j'estime que le fait de s'opposer à la foi, c'est plus compatible. Ou moi-même, je ne suis pas assez honnête. Hein, du coup, ça relève de la confession, les manques d'honnêteté, etc., les mensonges, etc. Mais en tout cas, il peut y avoir aussi des lieux où vous pouvez être des témoins modestement, simplement. Et pouvoir aider les uns les autres ou répondre à des questions, parce qu'en fait les gens vous posent beaucoup des questions véhiculées par les médias, si vous voulez, c'est ça que les personnes ont en tête, ah oui, ceci, et pourquoi les femmes ne sont pas prêtes, et pourquoi machin, les prêtres ne se marient pas, c'est toujours un peu les mêmes questions, quoi. C'est inintéressant du reste, mais bon, mais du coup, pour s'emparer de ça, si ça vient sur le tapis, et de témoigner, parce que je voulais, contre le témoignage, on ne peut rien. Le fait de témoigner, on ne peut rien. Je trouve que c'est intéressant. Contre le témoignage, on ne peut rien, parce que vous pouvez dire, moi, voilà comment je vis les choses. Hein, voilà ce que je veux. Ah, bon, d'accord. Et le fait que vous soyez aussi un bon professionnel donne une autorité à votre témoignage. Voilà un petit peu, mes amis, ce que je voulais vous dire cette question de la vie professionnelle et la vie personnelle. On est un petit nombre, etc. N'hésitez pas à poser des questions éventuellement sur l'une ou l'autre chose ou donner des témoignages ou donner des best practices, comme on dit en français. Oui. Alors, des domaines professionnels qui sont à exclure, à éviter. Évidemment, tout ce qui est hors la loi. Alors, c'est une profession. Je veux dire, narcotrafiquant, j'imagine, ça doit être du boulot, c'est du taf, quoi. Donc voilà. Maintenant, c'est un peu différent. C'est surtout sur la clause de conscience. Là, on a vu avec la question des lois pour la fin de vie, etc. C'est pas un domaine professionnel en tant que tel. Vous pouvez vous impliquer. Dans les soins palliatifs, c'est aussi la fin de vie. Et là, au contraire, ça, c'est excellent. Mais vous pouvez dire, il y a des choses que moi, je ne ferai pas. Et je ne ferai pas par conviction. Et donc, la clause de... Ce qui est plus compliqué, c'est... je ne pense pas que dans une formation, je ne sais pas. C'est souvent les questions de médicales qui sont les plus compliquées. C'est là où c'est plus compliqué. Qu'on vous demande dans une formation ou de médecin ou d'infirmier, c'est pas de maintenant la loi vient d'être votée, donc on n'a pas du tout le retour d'expérience, mais je crois que ça, en tout cas, ça, et que ça empêche d'avoir le diplôme. Ça c'est Donc, même pour rechercher un bien, on ne prend jamais un moyen mauvais. Alors, alors, je ne sais pas si parmi vous, certains sont concernés par la partie médicale, etc., et ont été confrontés. Alors, la loi est récente pour cette fin de vie, mais ou le début de vie, voilà, donc... en tout cas, je trouve que ce n'est pas des domaines, je dirais pas des domaines, c'est plutôt des pratiques. C'est plutôt des pratiques, ça peut être des pratiques commerciales aussi. Par exemple, de mentir aux clients. Ben non, mentir, c'est mentir. Voler, c'est mentir, quoi, c'est tout. Voilà, c'est plutôt des pratiques, je dirais, que des domaines. Hein, et même si vous êtes dans les forces de sécurité, si vous êtes dans l'armée, etc., y a des protocoles qui font qu'on engage. Vous ne pouvez être pas d'accord. S'il y a des choses, vous dites, là, on est allé trop loin dans la violence, ou on est allé trop loin, etc., où on vous demande de faire des choses. Mais ce n'est pas un domaine en tant que tel qui serait exclu. Bon, je ne sais pas. Je ne vois pas que. Bon, je sais pas. Ça ne me parle pas. Qui dit, non, le chrétien. Justement, le chrétien peut aller partout. Le disciple de Jésus peut aller partout, d'allumer une lumière, et puis. Et puis de dire quelque chose de sa foi, quoi. Donc, oui. Alors, un des warnings qui fait qu'on travaille trop, c'est la détérioration des relations. Des relations, je dirais, avec les personnes de notre entourage. C'est-à-dire que le fait qu'il n'y ait plus. Il y a une sorte de stress, il y a une sorte de tension intérieure qui fait qu'on n'arrive plus à des temps gratuits. Vos familles, vos amis, vous travaillez encore le week-end, etc. Donc, du coup, je suis là ou je ne suis pas là. Tu es là ou tu n'es pas là. Je veux dire. Ce qui fait que la relation, par exemple, avec les amis ou la famille se détériore parce qu'il y a trop, ça prend trop de place. Il n'y a pas assez de place pour une gratuité dans la relation. Et puis de vraiment... ça, et puis, alors, ça, c'est une relation hors professionnelle. Mais ça, c'est aussi qui est un peu différent, mais de dire des relations, la détérioration des relations professionnelles. Moi, j'ai acquis la conviction que les difficultés dans la vie professionnelle, c'est toujours des difficultés de relations. C'est pas des difficultés d'argent. C'est pas des difficultés techniques. Ça, on trouve les solutions. Mais c'est 90% des difficultés de relations. Or, dans la vie professionnelle, il n'y a aucun lieu pour évaluer les relations. Où est-ce qu'on en est de la qualité, on ne va pas dire spiritualité de communion, parce que c'est un peu fort, mais où est-ce qu'on est de la fluidité de nos relations entre nous? Parce que c'est sûr qu'on envoie des mails incendiaires, à copie ceci, copie cela, etc. Et alors que tu me frappes à ma porte, puis on parle. Et autour de la machine à café, on résout 1000 fois plus de choses qu'avec des mails incendiaires de tous côtés. Et une fois que c'est parti, c'est parti. Vous voyez, donc le mail, et ensuite on peut le regretter parce qu'on a dit des choses sous le coup de l'agacement, etc. Donc, et ça, alors c'est pas forcément la quantité de travail, mais c'est la mentalité qui règne dans la vie professionnelle. Parce que je pense qu'il y a un manque de savoir-faire. Et je trouve que l'Église, et singulièrement la vie religieuse, a un savoir-faire concernant la qualité de relation. Je trouve que c'est d'arriver à un équilibre. Je me souviens comme ça, je vous le dis comme témoignage, parce que ça m'a... on s'est lancé à la BI un gros chantier de restauration, il y a déjà maintenant 3 ans, etc. Et à un moment donné, il y a eu un bug dans le chantier. Il y a eu un bug, c'est... une somme importante, c'était à peu près 150 000 euros, qui ont été engagés par les architectes sans l'autorisation du propriétaire, c'est-à-dire de la communauté. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec une facture à régler qu'on n'avait pas prévu de régler. Ça, normalement, ça se fait pas. Et elle dit, en fait, il fallait faire, je ne rentre pas dans les détails techniques, etc., c'était une autre option. La première option, qui était la moins chère, n'était pas possible techniquement, mais simplement, évidemment... L'artisan, avant de faire les travaux, je fais ça, voilà la facture. Ben non, vous demandez la validation en amont, ce qu'on appelle un devis. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on aurait pu arrêter le chantier, partir en procédure, 8 ans, grosso modo. Et on aurait gagné, parce que bon, je me dis, ça, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant, donc le patron, le grand boss, est venu platement, parce que du coup, lui aussi a fait des travaux sans validation, je veux dire, beaucoup de gens, il y a eu un bug. Il y a clairement eu un bug. Et donc, je me suis dit, tiens, c'est signe de quoi? Et c'est signe qu'on ne prenait pas assez de temps avec les architectes pour vérifier la qualité de relation. C'est qu'on était sur le chantier à dire ceci, cela, dans le feu de l'action. Encore une fois, le travail fait, c'est un travail qui devait être fait, mais on n'a pas pris un temps. Et du coup, moi, j'ai dit, voilà, une fois par mois, on prend une heure. Les frères, c'est ce qu'on appelle les maîtres d'ouvrage, hein, techniquement, et les architectes, on prend une heure et on dit, comment ça va? Vous allez comment? Alors, j'étais un peu surpris parce qu'aucune maîtrise d'ouvrage fait ça. Aucun propriétaire fait ça. Et justement, je me dis, tiens, le fait de dire, tiens, comment ça va? Je veux dire, est-ce qu'il y a des choses qui ont coincé? Est-ce que vous avez... Et on a eu, à plusieurs reprises, des choses où on n'était pas d'accord. Ça n'a pas été. Je n'ai pas apprécié leur manière de faire. Mais ce n'est pas techniquement, c'est leur manière d'être. Je ne sais pas pourquoi vous avez réagi comme ça. Et puis de mon côté aussi, il dit, je n'ai pas compris, mon père, pourquoi vous faisiez ça, etc. Voilà, donc, du coup, on a un lieu pour le dire. Et je trouve que ça vient de la vie religieuse. En tout cas, dans la vie religieuse, soit je rappelle les chapitres, en tout cas les chapitres ou les réunions de communauté, c'est un lieu pour dire les choses. Sinon, ça circule dans les couloirs, c'est comme tout le monde. Et je me dis, tiens, dans la vie professionnelle, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça, et ce serait dommage. Parce que c'est d'avoir un temps et un lieu. On perd énormément de temps. Regardez bien les bugs que vous avez eus dans vos vies propres respectives. 80%, c'est des bugs de relation. Il y a ce qui est technique, même l'argent, là, on parle de l'argent, mais ça se trouve aussi, on a trouvé des délais de paiement, etc. On se débrouille. Vous voyez, donc je pense que c'est... parce qu'on ne met pas justement la qualité de relation professionnelle, alors qu'au contraire, des projets qui sont inspirants, c'est qu'on sent que ça matche, on sent que ça, c'est intuitif, on sent, voilà, c'est le lien est facile et on sent qu'on se comprend. Vous voyez, je pense que cette question de la qualité de relation, c'est donc oui, parfois il y a une sorte de trop de travail qui fait que les relations sont tendues, mais du coup met l'accent sur des fragilités, ou alors aussi à l'extérieur, aussi, que ce soit à l'intérieur de la vie professionnelle, mais à l'extérieur, du coup, d'être attentif à cette question-là, quoi. Oui, non, soit... Avec les frères, oui, on fait régulièrement ça. Chaque lundi matin, que Dieu fasse, on a ce qu'on appelle une réunion de communauté, et on dit ce qu'on a à dire. Et le prieur pose des questions, parce qu'évidemment, c'est comme partout, il peut y avoir de l'électricité dans l'air, il peut y avoir des coups de jus, etc. Bon, on est tout à fait comme les autres, on n'est ni mieux ni moins bien que les autres, mais on a un lieu pour le dire. Et se trouve, c'est la grâce dans la vie religieuse, c'est qu'on a des lieux, on a une procédure, en tout cas, on a une manière de procéder qui fait que quelqu'un qui veut parler peut parler. Et on lui laisse la parole. Alors, il n'y a pas, alors c'est un peu différent de la vie professionnelle, il n'y a pas la sanction de l'argent. Parce que c'est la grosse différence avec la vie professionnelle. Hein, mais bon, quelqu'un qui justement ne raisonne que par rapport à l'argent et non pas se prive aussi de charisme, et du coup des gens partent et turnover, etc. Donc oui, à l'ABI, on a quelque chose qui nous permet justement de revisiter ces relations. Où est-ce que ça a été difficile? Où est-ce que je n'ai pas compris? Tiens, tu avais dit que tu t'engageais à faire ceci, pourquoi tu ne l'as pas fait, etc. De poser la question, ah oui, j'ai eu ceci, ah oui, d'accord. C'est du basique. C'est du basique, comme tout le monde. Et je crois que ça, c'est ces questions-là qui fait que on laisse pas l'imagination trotter. On a un lieu, un temps pour dire des choses. Déjà, où est-ce que donc la question, c'est trop ou pas assez? Si on en fait trop ou pas assez, quels sont éventuellement les signaux qui font qu'on en fait trop ou on en fait pas assez? Déjà, le retour des autres. Le retour. Ou alors je vois que régulièrement, alors que ça fait partie de mon travail, je suis pas au rendez-vous de ce travail. Donc du coup, il y a des plaintes, de la part des personnes avec qui je suis en relation, qui me disent, mais écoute, on n'a pas compris, tu nous avais dit que tu nous remettais ce dossier-là, et je sais très bien que ce dossier-là, finalement, pendant les temps de travail, je suis allé voir pour réserver mon billet de train pour le week-end, je suis allé voir pour éventuellement voir les résultats sportifs, tenir au courant de l'actu, j'ai baillé aux corneilles, j'ai fait des jeux, pourquoi, plein de choses qu'on peut faire avec Internet, et tout en étant très très studieux et montrer qu'on est à fond, en fait, mais pas du tout dans la vie pro, quoi. Donc, de se dire, en fait, oui, quelqu'un attendait après mon travail, ne l'a pas eu, alors qu'objectivement, j'ai perdu mon temps. Hein, donc, le retour des autres, je trouve ça intéressant. Et puis, soi-même, de se dire, tiens, en quoi j'ai pu, trop de choses. C'est toujours à moi qu'on me demande, c'est toujours à moi qu'on me demande des travaux supplémentaires, qu'on rajoute des dossiers, qu'on ceci, qu'on cela, etc., etc. Voilà, ça ne me convient plus. Je vois que je suis dans un état de tension personnelle trop important.